Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 septembre. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le pass sanitaire stop ou encore? Le président de la République dit vouloir l'alléger et en même temps Matignon envisage son maintien. Les explications Anaïs dès le début de ce journal après les autres titres.
Le revirement australien sur les contrats de sous-marins français ne fait pas l'unanimité sur l'île continent. Nous serons à Sydney. Apple jugé aujourd'hui en France pour ses pratiques commerciales douteuses sur son App Store. Et puis les journées du patrimoine et la mise en lumière cette année du douloureux passé du pénitentiaire pour enfants à La Réunion.
Invité et rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45. Le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Elles sont nombreuses. Que penser des propositions économiques des différents candidats à l'élection présidentielle? On verra ça avec eux tout à l'heure. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, professeur aujourd'hui à Columbia University, Jean-Marie Guéhenneau, qui publie le premier 21e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde. C'est chez Flammarion, livre passionnant. Dialoguez avec lui, 01 45 24 7000.
France Inter. Un taux de positivité au plus bas depuis le mois de juillet. Moins de 2000 patients en soins intensifs pour la première fois depuis le 17 août. Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 tournent au vert. Question donc, à quand la fin du pass sanitaire? Le président de la République commence à esquisser une levée des contraintes dans les territoires où le virus circule moins, sans donner de date. Mais il l'a redit dans un discours hier. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Au sein du gouvernement, on se dit donc qu'il faut imaginer la suite et ce n'est pas si simple.
Oui, la chorégraphie est toujours la même. Un président sur scène, plein d'optimisme, qui veut offrir des perspectives, tourner la page du Covid.
Quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard.
Et derrière les rideaux, en coulisses, on essaie de ne pas montrer sa surprise. Aucune réunion n'a encore eu lieu sur ce thème. Emmanuel Macron parle territorialisation, mais c'est une galère sans nom, peste un conseiller ministériel. La carte de France de toutes les couleurs, on a déjà donné, soupire un député. Aujourd'hui, les 19 départements en vert vont de la Lozère à la Manche, de la Vendée à la Meuse sans continuité géographique. Il faudra de la clarté, partout les mêmes règles, ajoute un pilier de la Macronie. On ne peut pas monter dans un TGV sans passe et nous en demander un à l'arrivée. Au sein du gouvernement, certains suggèrent donc que le passe soit d'abord levé sur les terrasses et dans les petits cafés et restaurants.
Emmanuel Macron lui-même dit que ce ne sera pas dans 15 jours, 3 semaines. Maxence, est-ce qu'un calendrier se prépare quand même?
Non, personne n'ose donner de date pour l'instant et à vrai dire, Matignon prépare le maintien du passe sanitaire. L'exécutif est en train de rédiger un nouveau projet de loi pour aller au-delà du 15 novembre. Il faudrait qu'on garde cet outil en poche, à disposition, au cas où, sans doute jusqu'à la fin du quinquennat, reconnaît l'entourage de Jean Castex. Évidemment, les parlementaires ne seront pas de cet avis. Le problème, c'est qu'entre mars et juin prochain, ils seront absents en campagne. La bataille autour de la nouvelle date butoir s'annonce épique.
Maxence Lambrecq, service politique de France Inter. Le gouvernement passe tout de même de gagner une autre bataille, celle de la vaccination des Français. 49 915 000 personnes avaient reçu au moins une dose hier. Autant dire qu'il manque une poignée d'heures pour franchir le cap des 50 millions. Christophe Vincent est allé voir au centre de vaccination de Lyon les derniers de ces primo-vaccinés.
Au Palais des Sports de Gerland, plus de file d'attente. Sylvain, 29 ans, fonctionnaire, et Nasri, 21 ans, étudiante, ont enfin pris rendez-vous.
C'était pas un refus de me faire vacciner, hein. Je suis pas du tout anti-vaccin. J'avais pas la nécessité urgente de me faire vacciner. Juste, effectivement, le pass sanitaire a fait qu'on se précipite, quoi.
J'appréhendais un peu, quoi. Si c'est ce qu'il faut faire pour retrouver une vie normale, bah, je le fais, quoi.
De passage à Lyon, Guillaume, un Ardéchois de 47 ans, a franchi le pas.
Je me sentais pas malade.
Vous habitez dans quel environnement?
Campagne. Ouais. On met pas le masque. Des proches qui m'ont un peu poussé aussi. Bon, je m'en fous un petit peu. Je vivrai pareil.
Thierry et Christelle se sont fait violence.
Toute ma vie culturelle, elle dégringole à cause de ça, quoi. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, je suis énervé. J'y vais vraiment avec dégoût, quoi.
Là, j'y vais parce que je suis en recherche d'emploi, donc c'est aussi un frein à la recherche d'emploi. J'y vais, mais contrainte.
Un médecin tente de les calmer.
C'est le moment où on peut discuter avec eux, essayer de les rassurer, de les détendre un peu pour leur expliquer pourquoi il faut se faire vacciner.
Arrive un groupe de vieilles dames. Nous, on vient pour la troisième dose. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
À l'étranger, l'Italie vient de décider de rendre obligatoire le pass sanitaire dans toutes les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. À partir du 15 octobre, concrètement, seuls les chômeurs, les retraités et les personnes au foyer seront donc dispensés de ce pass. Objectif, augmenter au maximum le taux de vaccination avant l'hiver.
Il est 7h05, l'affaire des sous-marins australiens ou le retour du réalisme en géopolitique.
Oui, petite réaction épidermique. La réception prévue aujourd'hui à la résidence de l'ambassadeur français à Washington a été annulée. Elle était censée célébrer la victoire française de Chesapeake, décisive dans la guerre d'indépendance, quand Lafayette et George Washington bataillaient main dans la main. 240 ans plus tard, la préoccupation numéro 1 des États-Unis s'appelle la Chine. Et Joe Biden, comme son prédécesseur, trace froidement sa route, avec tout de même ces mots de consolation du secrétaire d'État. La France est un partenaire vital, dit Anthony Blinken. C'était le cas depuis longtemps, ce sera le cas à l'avenir. L'Australie, elle, dit agir aussi dans son propre intérêt, même si les réactions sont partagées à Sydney. Grégory Pless.
Salué par une majorité de la presse australienne, l'abandon du contrat portant sur les sous-marins français est aussi presque unanimement adoubé par la classe politique, y compris par le leader de l'opposition, Anthony Albanese, qui s'interroge quand même sur ce que va coûter ce revirement.
Nous savons que jusqu'à présent, nous avons payé 2,4 milliards d'euros à Naval Group, qu'il y a des contrats de travail qui vont devoir être rompus, mais aussi des compensations substantielles à verser. Les contribuables australiens ont le droit de savoir combien ça va coûter.
En Nouvelle-Zélande, la nouvelle a été accueillie plutôt fraîchement par la première ministre Jacinda Ardern. Elle a rappelé que ces sous-marins nucléaires ne seraient en tout cas pas les bienvenus.
Ils ne pourront pas entrer dans nos eaux territoriales. Ce que prévoit notre législation, c'est que tout navire à propulsion nucléaire y est interdit de séjour.
L'ancien premier ministre australien Paul Keating voit, lui, dans cet accord une perte de souveraineté de l'Australie au bénéfice des États-Unis, un partenaire dont il estime que la fiabilité sur le plan militaire et stratégique, à la lumière du désastre afghan, n'est plus indiscutable. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Au Liban, des tirs de joie et des pétales de roses pour des camions-citernes. C'est dire si la pénurie d'essence est gravement ressentie depuis maintenant des mois et la crise sans précédent que traverse le Liban. Mais ce fioul providentiel est du fioul iranien arrivé par un passage illégal depuis la Syrie. Le Hezbollah à la manœuvre, Aurélien Colli, pour ce qu'il appelle une opération humanitaire.
Les images tournent en boucle sur la chaîne de télé du Hezbollah. Des dizaines de camions-citernes arrivant de Syrie, remplis de fioul offert par l'Iran. Le blocus est brisé, se réjouit le mouvement chiite. Sous sanctions américaines, comme ses deux parrains dans la région, l'Iran et la Syrie de Bachar al-Assad. Je rends hommage au Hezbollah et à l'Iran, c'est un exploit. Les Américains ont voulu nous affamer, ils ont oublié notre résistance, témoignent des partisans devant les caméras. Alors qu'ailleurs dans le pays, trouver de l'essence pour sa voiture ou pour un groupe électrogène qui offre de l'électricité reste un défi. Le Hezbollah fait ça pour sa popularité, pour sa base qui s'érode. S'il y avait un état fort, on n'en serait pas là, juge Ahmed, chauffeur de taxi issu lui de la communauté sunnite. Nous les chrétiens, on devrait faire la même chose dans nos régions, amener du pétrole, de la nourriture et des médicaments, s'agace de son côté Joseph, proche des forces libanaises opposées au Hezbollah. Dans la soirée, comme une réponse à ce coup de com', à ce coup de force, le ministère de l'Énergie a annoncé la reprise des livraisons aux stations-service avec le maintien de subventions qui devaient disparaître. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Et hier, le Parlement européen a adopté une résolution sur le Liban s'engageant à ne pas abandonner le pays.
Le gouvernement confirme l'entrée en vigueur dans deux semaines du nouveau mode de calcul de l'assurance chômage.
Le projet de décret a été envoyé hier aux partenaires sociaux qui s'y opposent. Selon l'UNEDIC, 1 150 000 personnes vont y perdre. Le gouvernement estime, lui, que la reprise économique permet l'application des nouvelles règles plus strictes. Dans le même temps, la ministre du Travail évoque dans Le Parisien aujourd'hui en France un plan inédit pour les chômeurs de longue durée. Les entreprises qui les forment pendant plusieurs mois seraient financées. Pas d'annonce chiffrée pour l'instant. Au tribunal de commerce de Paris aujourd'hui, Apple sur le banc des accusés. L'audience, 3 ans après une plainte déposée par la direction de la concurrence et des fraudes. Pendant des années, ce service de Bercy a enquêté sur les pratiques commerciales du géant américain et l'obligation en particulier de passer par son App Store. Laurent Kramer.
attaquer de toutes parts les conditions commerciales qu'Apple impose aux éditeurs de jeux et à toute personne qui souhaite vendre une application sur un iPhone ou un iPad. En France, devant le tribunal de commerce de Paris, tout comme aux États-Unis ou devant la Commission européenne, les éditeurs d'applications dénoncent la même pratique commerciale qu'ils jugent abusive, des commissions de 15 à 30% imposées et prélevées par Apple, que l'éditeur est obligé de verser pour vendre ses applications dans l'environnement Apple, un système de paiement et de facturation lui aussi filtré par la marque qui se réserve le droit de retirer et de bannir du jour au lendemain toute application de sa plateforme. Après 3 années d'enquête, les services de Bercy ont relevé pas moins de 11 clauses abusives à l'encontre de la marque à la pomme. Pour sa défense, Apple affirme couvrir son système d'exploitation et permettre les téléchargements en dehors de son App Store détruirait la sécurité et la confidentialité des consommateurs aujourd'hui au cœur de son système d'exploitation.
Plus terre à terre, voire terre à mer, les difficultés des pêcheurs bretons, les eaux du Finistère Sud et du Morbihan sont actuellement envahies par les poulpes. Conséquence, la pêche au homard s'en ressent. Le reportage de Louise Joyeux, France Bleu Brasizel, avec les pêcheurs de Begmail.
3, 4, 5, 10 bacs de poulpes. François Caradec décharge sa pêche du jour, des belles bêtes de 3 kilos, du jamais vu pour ce pêcheur.
On a pêché 200 kilos de poules. Bah, moi, c'est la première fois que je vois ça. L'année dernière, j'ai peut-être pêché 100 kilos de poules dans toute ma saison. Là, je suis arrivé à plus de 2 tonnes largement.
Les poulpes sont de redoutables prédateurs, friands de crustacés, et ils font des ravages dans les casiers. François a remonté à peine 6 homards contre une vingtaine d'habitude.
Une fois qu'on a pêché les homards dans les casiers, les poules viennent les manger. Du coup, bah, on pêche le poulpe et les homards et on le retrouve en plusieurs morceaux. Et nous, ils viennent dans nos filets à sole, filets à rouget, et ils mangent vraiment tout. On en pêche dans tout le matériel.
Une situation qui inquiète François.
Mais c'est pour la ressource à suivre, quoi. Bah, on ne sait pas, une fois qu'on pêchera plus les poulpes, est-ce que l'homard est parti ailleurs ou est-ce que les poulpes ont mangé tous les homards? On n'en sait rien, quoi.
Cette espèce de poulpe est bien connue en Bretagne, mais pourquoi y en a-t-il autant? Dominique Barthélémy, conservateur en charge du milieu naturel à Océanopolis.
On a eu des hivers un petit peu plus doux ces derniers temps et du coup, ça favorise en fait le développement des juvéniles de poulpes et puis les populations augmentent.
Mais pour Dominique Barthélémy, il est trop tôt pour parler de conséquences du réchauffement climatique. Un hiver froid pourrait suffire à réguler la population de poulpes.
Renault veut faire partir 2000 salariés d'ici à 2024 et en recruter 2500 sur la même période. Le constructeur automobile se repositionne pour produire 9 nouveaux véhicules dans 4 ans, dont une majorité de 100% électrique. Les négociations avec les syndicats ont débuté hier. Les journées du patrimoine tout ce week-end en France, l'occasion bien sûr de découvrir les richesses de notre pays, mais aussi ses pages sombres, comme l'ancien pénitencier pour enfants de l'Islette à Guillaume à La Réunion. Il a fonctionné pendant 15 ans au 19e siècle et fait partie des sites sélectionnés pour bénéficier de l'aide financière du loto du patrimoine. Pour ne pas oublier Isabelle Pasquier.
Les vestiges de cette colonie pénitentiaire agricole pour enfants se trouvent à 700 mètres d'altitude, un lieu très isolé, à 2 heures de marche. Des murets, les traces de l'ancienne chapelle, déjà étouffée par la végétation. Ce pénitencier pour enfants a été construit par des missionnaires en 1864. Majoritairement, ce sont des enfants pauvres de l'île de la Réunion qui y ont subi une discipline de fer. Emmanuel Tiong Im est chef de ce projet de restauration.
Un millier d'enfants âgés de 8 à 21 ans sont passés par cette colonie pénitentiaire, condamnés pour des délits de vagabondage, vol ou conflits familiaux, puisque à cette époque, il y avait la correction paternelle. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Les enfants travaillent énormément. Et puis, il y a ce climat très humide, donc il y a une quinzaine d'enfants qui meurent.
Et le plus bouleversant, ce sont les pierres tombales anonymes du cimetière.
C'est un lieu où il faut raconter une histoire et honorer la mémoire des enfants à travers ce cimetière. C'est peut-être aussi commencer ce travail de nommer ces enfants et avoir une trace de ces enfants qui sont passés par là.
Pour ce lieu de mémoire, on va donc rouvrir les archives afin de redonner une identité à ses enfants.
Et comme ce site, 17 autres sites en péril seront financés par le loto du patrimoine, comme la maison de Louis Pasteur à Arbois ou encore le musée Marcel Proust à Combray.
Anaïs Feuga, merci. Dans 3 minutes, secret d'info, enquête cette semaine sur la désinformation, grande crainte de la présidentielle.